RMC, 19h-20h, l'After Tour.
Pierre-Yves Leroux.
Victoire du Danois Pedersen et prise de pouvoir du Norvégien Thorstein Træn. Nouveau maillot jaune dans la fournaise de la ville de Foix. Voilà peut-être, s'il fallait encore des preuves, que le bouleversement climatique est véritablement enclenché. Des Scandinaves qui roulent sur leurs adversaires sous un climat saharien, on ne s'y attendait pas forcément. Et si cette chaleur suffocante avait aussi été un élément de décision chez UAE pour laisser 13 minutes à l'échappée du jour et près de 8 minutes d'avance au nouveau leader par rapport à Pogacar. On évoquera cette question avec nos spécialistes dans quelques instants, tout comme la journée des Français. Kevin Vauclin un peu ressuscité aujourd'hui et un Paul Sexas au chaud dans le peloton. C'est l'after dans la chaleur. On est à l'heure. Que du bon air.
Précédemment dans l'intégral tour sur RMC.
Bonjour à tous, bienvenue, vous êtes sur la route du Tour de France, ou plutôt le Four de France, tant la température aujourd'hui est montée d'un cran, de deux crans, voire de trois crans, et que ça ne va pas s'arrêter de sitôt.
34 coureurs dans cette échappée. Parmi ces 34 coureurs, Mats Pedersen, Quinn Simmons et Mathias Vacek pour la Lidl Trek. D'autres garçons sont présents, à l'image de Kevin Vauclin, il y a Ewen Kostio, il y a Romain Grégoire, et puis d'autres coureurs qui pourraient être vainqueurs aujourd'hui comme Yon Izaguirre.
On va poser la question à Jérôme et à Petit Marco pour savoir la température affichée par la moto là en plein cagnard sur la route. Jérôme.
42 degrés messieurs, il fait 42 degrés à l'approche du sprint intermédiaire à la moto.
Dans un instant on va passer à ce col, avant-dernière difficulté du jour, le col de Coudon avec deux hommes en tête.
On va même pas se bagarrer, hein. C'est Tratnik qui a fait le dernier relais et qui va passer en tête et donc aller prendre les 10 points. C'est parti pour Marco Frigo. Il voit bien que Pablo Castrillo a fait trop d'efforts. C'est dur, mon seigneur, mais c'est vraiment dur.
RMC, la flamme rouge.
Et le premier à passer sous cette flamme rouge, c'est le poisson pilote. Vacek, le champion de Tchéquie, qui a dans sa roue Mats Pedersen, le favori de tous les pronostiqueurs pour cette arrivée. Kevin Vauclin, il est bien en train de se replacer sur la droite de la route. Il va prendre le virage. C'est bien joué. C'est bien joué de la part de Kevin Vauclin. Un petit peu large, peut-être. Résultat, Mats Pedersen est passé et lance déjà le sprint. Mats Pedersen avec Kevin Vauclin dans sa roue. Quinn Simon, c'est troisième et il part tout seul. Il n'y a personne qui pourra battre Mats Pedersen, le champion du monde 2019, qui est déjà deux fois vainqueur sur les routes du Tour de France. Et 1 et 2 et 3-0 pour Mats Pedersen, vainqueur ici à Foix devant Quinn Simmons, qui lui aussi lève les bras puisqu'il est satisfait de la victoire de son collègue, partenaire d'équipe, la victoire de Lidl Trek. Rien que du soleil, je veux du soleil, et le soleil aujourd'hui a brillé pour le Danois Mats Pedersen, qui a mis en échec tout le monde, tous ses adversaires, bien aidés par une superbe team. Et puis donc on l'évoquera aussi, ce maillot jaune qui arrive sur les épaules du Norvégien Thorstein Træn. Toute l'équipe de l'After Foot étant en ma
l'after
compagnie
foot. L'After Foot, ça va mieux. Je pense tour. Que le soleil l'after tape show. Aussi sur la table.
L'After
la
Four
tête.
L'After Four, notre DS que vous venez d'entendre, Christophe Cessieux, tu t'inquiètes pour tes équipes.
T'inquiète pour ça, ouais. Je m'inquiétais tout à l'heure pour Jérôme Pinot. Ça a l'air d'aller un peu mieux, mais bon, c'est pas non plus. On n'a pas complètement récupéré la bête.
Il est là, notre motard.
Heureusement, il reste Jérôme Coppel quand même.
Bonjour, ça fait plaisir de vous entendre.
C'était une journée difficile.
Non, je fais une balade à moto.
Balade à moto, mais dans la chaleur quand même.
Quoi. Et dans les bagnoles.
Ouais, c'est ça, dans les pots d'échappement.
Exactement.
Jérôme Coppel était bien mieux, notre spécialiste du chrono. Ça va, Jérôme ?
Ça va, messieurs, j'étais très bien, très très bien ici avec vous.
Et comment s'est passée la journée de Richard Virenc, notre montagnard devant les écrans ? Comment as-tu vécu cette étape du jour ? Salut Richard !
Oui, bonsoir à tous. Ben écoutez, une bonne journée. Il y a eu de la bataille, comme on avait évoqué hier. Et non, c'était sympa. Le tour s'ouvre un peu et il y a d'autres équipes qui se montrent et on rentre dans un classique du Tour de France.
Oui, c'est vrai, tu as raison, ça nous change un petit peu du refrain qu'on avait depuis 3 jours avec la lutte entre les Visma-Lisebike et puis les UAE. Donc c'est bien parce que ça nous permet de raconter aussi d'autres histoires dans cet after tour. Et ce que je vous propose, c'est qu'on se repenche tout de suite sur les classements avec toi, Christophe, classement de l'étape et classement général. On verra, on évoquera aussi les autres maillots tout à l'heure, mais il y a eu du mouvement, il y a des changements. puisqu'il y a de nouveaux garçons sur les podiums.
Exactement. La victoire donc pour Mats Pedersen, tu viens d'en parler. Le doublé même pour la formation Lidl Trek, puisque son équipier, équipier de luxe, Quinn Simons, termine deuxième dans le même temps. Garça Pierna, l'Espagnol, termine troisième. Le premier français, c'est Kevin Vauclin, qui termine dans le même temps, au sixième rang. Et puis, évidemment, après ces 30-là, le peloton qui est arrivé très, très loin. Le peloton emmené par Adam Yates, qui est arrivé en 30e position avec un retard de 12 minutes 59. Tadej Pogacar,
oui, tu peux te moquer de nous. J'accroche ton renard qui vient d'arriver.
Tadej Pogacar se classe 33e, messieurs. C'est son plus mauvais classement de la saison. Jamais dans la saison, oui, il n'avait terminé
aussi loin. C'est le début,
de la, fin. C'est le début de la fin. On sent que franchement, il n'est pas dans
ça va mal.
Il n'est plus dans le coup. Voilà donc pour le classement de l'étape. Au classement général, là aussi des changements. Car Tadej Pogacar, 33e, perd sa belle tunique d'or. Elle sera portée demain par un Norvégien, Thorsten Tren, de la formation Uno X, qui est donc leader avec 28 secondes d'avance sur Sean Quinn, un Américain. Mathias Vacek et équipier de Quinn Simons et de Pedersen est troisième au classement général avec un retard de 3,50. Et puis ils sont plus loin. Tadej Pogacar qui n'est plus que quatrième. Il perd trois places au classement général. Il est à 7 minutes 53 dans le même temps que Vingegaard, le premier français. Et bien c'est toujours Paul Sexas. Il dégringole au dixième rang avec un retard désormais de 8 minutes 41.
On a déjà eu, Jérôme, on se penchait sur la question tout à l'heure, un Tadej Pogacar assez loin comme ça au classement général. C'était arrivé notamment quelques années déjà, mais
oui,
Ben O'Connor.
Même encore avec des écarts encore plus grands à la 19e étape du Tour 2021. Donc c'était vraiment en fin de tour avec la victoire de Matej Mohoric à Libourne. Le peloton emmené par Tadej Pogacar était arrivé à 20 minutes 50. Mais voilà, là le général était déjà complètement joué, le Tour de France aussi.
Allez, on se concentre d'abord sur
juste changement de maillot distinctif, juste pour vous dire, parce qu'on a tout changé également. Mats Pedersen sera en vert demain. Alex Baudin, lui, reste à poids. Et le meilleur jeune de ce Tour de France est désormais Mathias Vacek.
Oui, ils ont fait table rase aujourd'hui. Justement, cette équipe Lidl Trek, on en parle tout d'abord. Richard, est-ce que tu as apprécié la leçon tactique de cette équipe Lidl Trek très forte dans ce final avec trois garçons et donc Mats Pedersen qui va la mettre au fond?
Ben déjà, ils ont affiché beaucoup d'intentions sur ce Tour de France, hein, parce qu'ils ont mis la grosse formation. Et je pense qu'ils ont bien joué et ils ont bien compris qu'aujourd'hui, c'était une journée très importante, la veille d'une journée pour les sprinteurs, parce que demain, ça sera une étape quasiment pour les sprinteurs aussi, à l'arrivée à Pau. Donc, ben c'est très bien joué. Hein, c'était ceux qui prennent des risques, à un moment donné, ça paye. Ben oui, ils se sont, en fait, ils savaient très bien que s'ils étaient dans l'échappée, il fallait passer ce col de première catégorie qui était un peu la difficulté pour lui. Et ça a été le cas parce qu'il était entouré d'équipiers. Ils ont pu monter au train. Il n'y avait pas de super grimpeur qui a fait péter l'échappée. Et quelque part, ben ils ont eu raison de se concentrer comme ça.
Tu te parlais, Jérôme Pinault, beaucoup de ce col de Montségur que tu connais bien, qui pouvait être très très sélectif. Mais on savait avant le départ du Tour que cette équipe Lidl Trek, elle était très très costaud. On peut redonner les coureurs qui sont dans cette équipe, parce que il y a Ayuso, bien sûr, en leader, Derek G, Mats Pedersen, Quinn Simons, Mathias Kielmose, Tom Skuyens, Mathias Vacek et Carlos Verona. Peut-être que Skuyens et Verona sont un petit peu en dessous, et encore, c'est des garçons qui peuvent se glisser dans les échappées. Mais ce col de Montségur, avoir un Mats Pedersen capable de passer, c'était vraiment le point sensible, la seule question pour Lidl Trek finalement.
Oui, alors moi, la seule chose de Lidl Trek que j'ai vue aujourd'hui, c'est la voiture.
Tu nous raconteras tout
mais
à l'heure de la journée.
J'ai été surpris de voir décrocher des coureurs, parce que c'est les seuls coureurs que j'ai vus, puisqu'ils se faisaient lâcher. Des coureurs punchers qui auraient normalement dû distancer Pedersen. Le col de Montségur, si.
Qui, par exemple?
Bah, Romain Grégoire, pour commencer. Romain Grégoire a été distancé très vite. Je sais qu'on a un peu sacrifié l'Allemand. Il y avait un coureur allemand devant de l'équipe IF qui a fait de très beaux résultats récemment. Pareil, il a pété tout de suite et on n'a pas tellement bougé. J'imagine que si des coureurs à leur niveau, qui ont du punch et qui grimpent bien, prennent des initiatives très tôt dans le col, Il faut savoir juste que moi, je n'ai pas vu l'étape du tout, mais par contre, ce que je sais, c'est que s'ils n'ont pas attaqué avant les deux derniers kilomètres au sommet, même si c'est la partie la plus dure du col, c'était foutu. Il fallait mettre en route et attaquer bien plus tôt pour mettre à mal Pedersen. Après, tu te retrouvais avec Vacek ou Simon, ça va moins vite. Ok, ça va vite, mais ça va moins vite. Là, les adversaires de Pedersen, ils n'ont pas fait le boulot. Et d'ailleurs, après, ils ont continué à rouler avec lui. Donc,
mais c'est référence à George Steinhauser.
Ouais, c'est ça le problème, en fait. IF ont essayé, au moins. Steinhauser, ensuite, il y a eu Valgren qui a roulé. Ils attendaient l'attaque de Sean Quinn, qui l'a mise, mais il n'a pas réussi à décrocher ou à attaquer suffisamment fort pour lâcher définitivement Pedersen. En fait, Pedersen, il était toujours à la limite. Et c'est là où Lidl Trek, au-delà d'avoir mis leurs trois coureurs à l'avant et trois très bons coureurs dans le gros groupe d'échappés, c'est là où ils ont très bien couru. Ils ont mis Quinn Simons vraiment pour suivre les coups et voilà les meilleurs grimpeurs quand ils attaquaient pour vraiment avoir un mec à l'avant et pas se faire piéger. Et Vacek, lui, est resté tout le temps avec Pedersen et il tamponnait les attaques et il lui faisait le tempo pour soit basculer avec le premier groupe, le groupe de tête, ou soit pas très loin pour rentrer dans la descente. Donc là, ils ont vraiment bien joué, mais en fait, les autres, les adversaires, n'étaient pas suffisamment costauds dans ce col qui est pourtant très difficile pour épailler Mats Pedersen.
Oui, c'est ça. Moi, je voulais juste te dire ça, en fait, c'est que si Grégoire a le niveau qu'il avait au championnat de France, même si ça reste que le championnat de France, c'est qu'il a le punch dans les deux derniers bornes. Il le sort, Pedersen.
C'était il y a 10 jours. Il peut ne pas avoir le niveau.
Non, mais ce qui s'est donné comme objectif cette année, c'était le championnat de France. Il dit qu'il l'a préparé très précisément. Quand tu prépares une course d'un jour avec des séries derrière scooter et des entraînements à haute intensité pour une course d'un jour, ça n'a rien à voir.
On l'a vu quand même dans le contre-la-montre par équipe, il était saignant.
Il va avoir ses irrégularités, je pense. Il va un coup bien, un coup moins bien. Et puis ce qui les a rincés, c'est aussi le rythme. C'était très dur aujourd'hui.
On en reparlera.
Il est de Besançon. Besançon, on n'a pas l'habitude d'avoir des chaleurs.
Enfin, le vainqueur est un Danois, le maillot
c'est vrai, c'est la journée des Vikings.
Il peut faire chaud quand même à Besançon. Tiens, on écoute le vainqueur. Le vainqueur du jour, Mats Pedersen, un super champion qui s'impose aujourd'hui à Foix.
C'est sans aucun doute, je dirais, un chef-d'œuvre de travail d'équipe. Bon, peut-être pas au niveau de la montagne, j'ai beaucoup souffert dans la dernière montée, mais avec Quinn et Vacek à mes côtés, ça a été une journée incroyable. Ils ont été formidables dans la montée, ils ont su bien gérer le rythme pour moi et veiller à ce qu'on ne perde pas trop de temps au sommet. Puis ils ont été de véritables machines jusqu'à la ligne d'arrivée.
Richard, c'est un formidable coureur, hein. Mats Pedersen, on rappelle 12 étapes de Grand Tour, 5 en Italie, 4 en Espagne, 3 en France. Il avait déjà gagné à Limoges et à Saint-Etienne, et puis il est champion du monde en 2019. C'est le genre de coureur que tu apprécies, que tu regardes attentivement depuis quelques années. Nous, je sais que dans ce camion, on l'adore.
Oui, c'est un coureur de classique, champion du monde. C'était un peu la surprise quand il a été champion du monde, et après, il s'est encore sublimé, hein. Il n'est pas resté sur ça. Oui, je trouve que c'est un très bon coureur qui se remet en question d'année en année, hein, parce que certains s'endorment un peu. Lui, il se bonifie dans le temps et il n'a jamais gagné le maillot vert. Je pense que cette année, il a mis une bonne option, même si on n'est qu'à la 4e étape. C'est une bonne option parce qu'il y a pas mal de montagnes dans la dernière semaine. Et entre demain et les prochains jours, oui, je crois que c'est un coureur que j'apprécie parce que c'est quelqu'un qui se donne à fond et qui a un bon style sur le vélo et qui est assez souriant aussi. Donc non, ça a fait plaisir à voir. Et aujourd'hui, oui, comme dans l'échappée, il a eu pas mal de chance parce que ses compagnons d'échappée, ils l'ont tous accompagné à la victoire. Hein, parce qu'à un moment donné, quand on est à 30 km de l'arrivée, on sait qu'on a Max Pedersen dans l'échappée, comme disait Jérôme Pinault, on arrête de rouler parce que là, c'est sûr qu'on joue pour la deuxième ou la troisième place. Donc voilà, c'était. Moi, je pense qu'ils étaient tous un peu cuits par rapport aux conditions climatiques, à la chaleur, et ça les a tous un peu perturbés. Et voilà, donc il y a eu quelques coureurs qui ont été déstabilisés par rapport au chaud.
Ouais, alors je pense que la plupart étaient à fond aussi, hein. C'est aussi pour ça qu'ils n'ont pas réussi à décrocher Mats Pedersen. Kevin Vauquelin, c'est un des rares de l'échappée. je trouve, on en parlera plus tard, mais qui a bien couru, qui a pas pris de relais, voilà, qui a vraiment joué pour la victoire. Et pour revenir au maillot vert, t'as raison Richard, il a pris une bonne option, alors qu'on rappelle que le classement a été un peu changé au niveau des points attribués en cours d'étape et à l'arrivée. Donc ça avantage pas forcément Mats Pedersen. Et ce qui l'avantage encore moins, c'est que cette année, tous les sprints intermédiaires quasiment ont été mis avant les grosses difficultés. Alors que lui, c'est quand même un des sprinteurs qui grimpe le mieux, il l'a prouvé aujourd'hui. Donc avant, il arrivait à faire la différence en se glissant dans les échappées parce qu'il y avait un départ difficile. Maintenant, ça sera le cas sur les jours à venir. Les sprints intermédiaires sont tous avant les grosses difficultés. Donc on devrait, c'est pour remettre plus de sprinteurs dans le jeu intéressés par ce maillot vert. Mais je pense qu'il a les jambes pour aller gagner ce maillot vert, mais la nouvelle réglementation pourrait le défavoriser un petit peu.
Tu peux juste nous faire un point sur le classement au maillot vert pour voir qui est à peu près encore toujours en course. On a vu un Binyam Girmay, un Jasper Philipsen se glisser justement dans cette échappée avant de se relever. Ça nous donne quoi là au classement?
Pedersen est en tête avec 103 points. Son dauphin c'est Pogacar avec 55 points. Vingegaard troisième à 44 points. Et donc tous les sprinteurs sont un peu plus loin. Girmay par exemple, ancien porteur du maillot vert, qui avait ramené le maillot vert sur les champs il y a 2 ans, est à 39 points. Et puis Philipsen à 30 points. Donc voilà, il y a quand même 70 points d'écart entre, ou 60 et 70 points d'écart entre.
Une victoire, c'est 50 points. Ouais. Donc il a sur Tadej Pogacar une victoire d'avance déjà. Et là, on ne parle pas des sprints intermédiaires, etc., etc. Donc il a pris une belle option.
On en reparlera peut-être en fin d'émission quand on évoquera l'étape de demain, bien sûr, qui est promise aux sprinteurs avec des points à aller chercher. Je vous propose maintenant de nous poser sur le classement général, puisque tout a été bouleversé. Tu nous le disais, Christophe, tout à l'heure. C'est l'autre enseignement du jour avec ce maillot jaune donc, qui passe sur les épaules de Thorsten Stren. Et cette question, la chaleur est-elle devenue un élément très important dans la gestion du maillot jaune? Peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être après-demain, dans les jours qui viennent, on annonce toujours des grosses chaleurs. Est-ce que c'est un élément qui va, selon vous, être capital dans la gestion? Jérôme, je sais que toi, tu es plutôt sur un avis... voilà, on fait du vélo, on parle beaucoup de la chaleur, on en parle peut-être trop.
Alors moi je fais partie, alors je dis pas que c'est pas difficile pour les coureurs, mais je trouve qu'on en fait des caisses et une montagne. D'ailleurs Romain en a parlé pendant l'intégral tour avec sa chronique, sa musette.
C'est ton carton jaune.
C'est mon carton orange, bon. On va dire, il est plutôt orange. Les équipes sont bien armées. On a entendu Warren Barguil qui disait que c'est moins dur en course qu'à l'entraînement. On a entendu Lenny Martinez qui était dans son bain froid. On les voit à l'écran prendre des bidons, mettre des glaçons, etc. Donc là-dessus, les équipes, on va rien leur apprendre, elles maîtrisent ça. Alors il y en a qui c'est plus ou moins facile de s'adapter à la chaleur, mais là-dessus elles sont tout au point. On a parlé du heat training, etc. Donc voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant ça va quand même être, je pense, avec la répétition, ça peut devenir cette chaleur le facteur X du Tour de France, c'est-à-dire la cumulation de fatigue par les étapes et la mauvaise récupération le soir. Il peut faire chaud dans les chambres, chaud dans le bus. Visma Lease Bike, le bus est planté, la clim est cassée, bah voilà, c'est la récupération est pas au top. Et puis surtout, sur quoi ça peut jouer, c'est la route, le goudron qui fond. Quand le goudron fond, ça peut être dangereux. On se rappelle de Joseba Beloki quand il est tombé avec la fameuse traversée de champ de Lance Armstrong. Et quand ce goudron y fond, ça laisse des petits graviers qui restent collés aux pneus et des crevaisons. Et ça arrive quand même assez souvent. Des crevaisons, on en voit plein. Donc là-dessus, il faudra faire attention parce qu'une crevaison au mauvais moment cumulée à la vitesse, à la chaleur et à la fatigue des étapes qui s'enchaînent, bah voilà, la chaleur pourrait quand même devenir un facteur X, même si elle est maîtrisée par l'ensemble des équipes.
Richard, qu'est-ce que tu penses de cette question de la chaleur? Toi, est-ce que ça a changé quand même par rapport à l'époque où vous étiez sur le vélo? Là, on atteint des chaleurs, des températures qui sont très élevées. Aujourd'hui, on était à 42.
Mais attends Richard, excuse-moi, je coupe un peu avant là, mais Richard, comme Jérôme, comme moi, on a déjà fait des Tours de France où il faisait très chaud aussi. Ouais.
42
Mais bien sûr, plus que 42.
Dans des cols, moi j'ai monté l'année où je gagne le Mont Ventoux en 2001, 2002 ou un truc comme ça.
2002.
Ouais, je crois qu'il faisait 36 degrés au pied du Ventoux. Donc je vous dis pas dans la fournaise là, combien il faisait. Non, mais on a toujours eu chaud. Ce qui a changé par contre, c'est la récupération, comme le disait Jérôme Coppel, la récupération, tout ce qui est autour du coureur pour refroidir le coureur. Et ça, on n'avait pas à disposition. Donc, il est clair qu'on a pris quelques degrés de plus depuis maintenant, on va dire, une dizaine d'années ou une quinzaine d'années. Mais la technique est là aussi. Donc, il ne faut pas oublier que les coureurs, quand on roule en vélo, ça m'arrive moins vite, mais quand on dépasse les 40 km/h, ça ventile, on a de l'air. Donc c'est clair qu'il fait chaud, mais bon, on monte, on descend, on monte des cols. Comme aujourd'hui, ils ont monté des cols, au sommet des cols, il faisait meilleur. Mais on a toujours connu ça. C'est clair que quand il fait 40 degrés, ben, c'est dur pour tout le monde. Mais voilà, ben, vous savez, les coureurs cyclistes, ils s'adaptent à tout, hein. Ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire qu'ils fassent 2 degrés, moins 3 ou 40 degrés, eh ben, on y va. Ils sont chevaliers, on était chevaliers.
C'est vrai.
Souvenez de Richard, tu te souviens sans doute du Tour 2003, le Tour de la canicule, oui, de cette sûr. Image incroyable dans la descente vers Gap avec Bellocchi qui chute, le bitume qui fond, Armstrong qui franchit le champ et qui récupère la route derrière. Cette année-là, tu avais aussi été sacré meilleur grimpeur.
C'était pris le maillot jaune aussi.
Oui, c'était mais une année particulière. Tu sentais que la chaleur était plus importante cette année-là.
Ben, on prend un coup de chaud et on s'attend. Alors moi, franchement, j'attendais que ça. Hein. J'attendais que ça, qu'il fasse chaud.
Mais toi, t'es un mec du Var, t'es un mec méditerranéen.
Ouais,
la chaleur,
non, mais hein. Pourquoi? Parce que il y a la moitié des coureurs qui sont déshydratés, qui sont en galère. Donc ça fait déjà la moitié des coureurs, on n'en parle plus. Et les autres, eh ben, certains résistent et certains, on s'en fout. Vous savez, quand vous êtes là pour le Tour de France ou pour une course, moi, qu'il fasse beau, chaud, pas chaud, c'était un détail. Quand vous êtes formaté dans votre tête et vous avez un objectif, eh ben, vous accommodez de tout ce qui peut se passer. Du vent, de la pluie, de la chaleur, du goudron qui fond, des chutes, vous tombez. Ça fait mal de tomber, eh ben on se relève, on est pelé de partout, eh ben on repart, on se dit ben on a pas mal et on y va. Donc en fait, ça rentre dans la formation du coureur et le coureur cycliste en lui-même, eh ben voilà, c'est les qualités d'un coureur cycliste, c'est quelque part que eh ben sous n'importe quelle condition, eh ben c'est dur. Et le plus dur, ben, je dirais, c'est le plus dur dans tout ça, c'est quoi? C'est tous ceux qui sont lâchés, c'est tous ceux qui sont à la dérive derrière, parce que eux, en plus de la chaleur, ils n'ont pas la condition et ils sont à la ramasse que dans le peloton. Dans le peloton, moi, quand j'étais dans le peloton, il faisait 30 ou 40 degrés. Ben c'est la même sensation que je suis dans le canapé. Vous savez, vous êtes bien, mais il fait chaud. Voilà, c'est tout. Mais ceux qui sont à la ramasse derrière, là, qui se battent pour les délais, ben là, je peux vous dire, c'est très difficile.
C'est d'ailleurs l'une des choses qui est évoquée au sein du peloton. C'est la possibilité d'avoir une troisième voiture par équipe lorsqu'il fait très chaud, parce qu'il y a uniquement deux voitures. Et imaginez aujourd'hui, il y avait une voiture derrière les échappés, 40 échappés, donc évidemment chaque équipe, une voiture derrière le peloton, et puis des lâchés, certaines fois, entre les deux. Et il a fallu gérer cela. Et les garçons, par exemple, qui se sont relevés après Quillan, qui ont été distancés dans le col qui a suivi le traversé de Quillan, ils ont été pendant des dizaines de minutes sans voiture à l'arrière. Et là, à part la moto fraîcheur qui n'est pas réfrigérée, donc les bidons sont chauds, c'est un moment très difficile à gérer.
Tiens, justement, c'est intéressant puisque on a eu un son avec Machine en reporter, on a eu un son avec le manager de l'équipe UAE qu'on écoute justement sur cette gestion au quotidien qui est très compliquée au niveau logistique.
Il fait vraiment très chaud. À plusieurs moments, il fait 42 degrés. Depuis la voiture, nous avons distribué plus de 200 bouteilles au 31e kilomètre. À mon avis, c'est mieux d'avoir une zone ouverte pour pouvoir prendre des bouteilles à tout moment.
Oui, voilà, il faut quand même avoir une organisation très très précise et au bout d'un moment, peut-être, ça suffit plus, quoi.
Ah non, mais c'est là, avec cette chaleur-là, c'est un miracle qu'il n'y ait pas plus d'incidents aussi, hein, parce que pour avoir passé la journée à l'arrière du groupe de tête, c'est quasiment l'ensemble du peloton, puisqu'il y avait 16 équipes ou 17 de représentés. Bah, c'est une valse permanente et les voitures prennent énormément de risques. Et c'est sûr que d'autoriser beaucoup plus de ravitaillement sur le bord de la route, et comme cette règle des 10 km, qui évidemment, quand tu joues la gagne, à 10 bornes, tu ne vas pas chercher un bidon. En revanche, de ne pas autoriser les gars qui sont largatos ou qui sont dans le peloton, qui ont chaud toute la journée, à prendre un bidon dans les 10 derniers kilomètres, c'est ridicule.
Bah, tu vas nous parler justement de ta journée en quelques mots, de ce que tu as fait quand même,
rapide, hein.
Mais sur la chaleur. Mais Romain Asselin est avec nous dans cet after tour. Romain, toi tu étais aussi sur la ligne d'arrivée, tu as pu rencontrer quelques directeurs sportifs, des coureurs, et puis tu as vu des choses. Les visages sont fatigués.
J'ai vu des garçons très marqués par l'effort. Bon, c'est là qu'on voit aussi, dans ces moments-là, qu'on n'est pas tous égaux face aux fortes chaleurs, clairement. Certes, il y avait quand même des garçons, je prends l'image de Kevin Vauclin qui avait quand même la course à l'avant, et à l'arrivée, il n'avait pas l'air si marqué que ça. Mais un garçon comme Romain Grégoire, par exemple, qu'on a déjà vu souffrir de la chaleur hier, qui a pété encore aujourd'hui, Marc Madio me disait qu'il n'était pas beau à voir le garçon quand il est rentré dans le bus. Je l'ai vu directement plongé dans un bain froid qui était aménagé dans une voiture. Enfin, tu sens que c'est un peu système D. C'était la même, hein, chez UAE, il y avait un bain froid dans une camionnette. Donc non, j'ai vu les garçons marqués, ça n'a pas duré très très longtemps. Les équipes ont rapidement mis les vélos sur la voiture et sont partis à l'hôtel. Hein.
Et d'ailleurs, tu as discuté avec Marc Madio, à qui tu disais, est-ce que vous êtes inquiet pour les jours à venir sur une éventuelle annulation d'étape ? En gros, il dit je sais pas, mais c'est une...
il me dit je serais pas surpris. En gros, j'ai rarement vu de telles chaleurs et surtout la durabilité qui est pas encore précise.
Marc Madio, il courait avant, messieurs, je vous rappelle. Hein.
Bah, il a connu du chaud aussi, Marc Madio.
Ouais, mais il trouve peut-être que là, si on arrive à des situations.
Il faut pas que ça dure très longtemps. On a vu tout ce qui se passe aux à côté de la course. T'en parlais, Jérôme, le bus des Visma, effectivement, ce matin. Alors, il y avait un bus parce que c'est le protocole, c'est obligatoire, mais il était en réparation. En fait, les coureurs sont restés à l'hôtel. Ils étaient à peu près à 2 km, heureusement. Et ils sont partis de l'hôtel. Ils sont restés au frais à l'hôtel sous la clim. Ils ont eu l'autorisation des organisateurs du tour, parce que les circonstances sont exceptionnelles, d'être escorté avec la police jusqu'à la présentation des équipes. Mais le bus n'était pas là ce soir. Il n'était pas là. On a fait toute la file des bus. Il n'y avait pas de bus Visma. Ils ont affrété un bus des Pays-Bas. Sauf que pour venir des Pays-Bas, il va falloir un petit moment. Normalement, il sera là au départ demain matin. Je ne sais pas comment ont été escortés les coureurs de la Visma Lease the Bike ce soir après l'arrivée. J'espère aussi pour eux que l'hôtel est pas loin. Mais c'est quand même des cas de
Dans ces cas-là, on trouve refuge avec une équipe bienveillante qui accueille au moins ses coureurs, qui est souvent tout proche de l'hôtel où vous êtes, ou voire avec vous à l'hôtel, et les coureurs rentrent avec une autre équipe. En général, c'est comme ça que ça se passe.
Mais Richard, il y a peut-être aussi une autre question. Vous, il n'y avait pas la clim dans les bus. Les coureurs, aujourd'hui, sont habitués peut-être à des conditions plus faciles que celles que vous aviez connues. Et quand là, ils se retrouvent dans ces situations... haute, peut-être que le niveau d'acceptation va pas être le même qu'à votre époque.
Je pense, bon, ce qui monte aussi en température, et je l'ai connu, c'est le casque. Hein. Je vais pas dire que le casque est négatif, mais le casque, ça fait monter la température, la boîte crânienne. Moi, j'ai connu les époques sans le casque et les époques avec le casque. Je peux vous dire que quand on monte un col et qu'il fait 35 degrés avec un casque, on a une cocotte minute sur la tête. Mais bon, l'avantage, l'avantage, tout le monde a le casque. Donc, on est tous pareils. C'est sûr que ces conditions-là, c'est dur. Donc, ouais, j'ai connu un peu le tout. La clim, c'est clair qu'on s'adapte. Mais pour certains, vous savez, il y a certains coureurs qui sont du Nord et qui ne supportent pas vraiment les chaleurs. Et là, c'est pas supporté. Quand on dépasse les 35 degrés, là, ça devient très compliqué. Donc voilà. Donc il y a des organismes qui sont pas bien à ces températures élevées. Hein. Moi, je me souviens quand j'étais dans la bataille avec des favoris comme Yann Ulrich et tout ça. Ils préféraient des températures clémentes, pas la chaleur. Donc quand il faisait très chaud, c'était on va dire une option en plus pour moi pour essayer de le dégoupiller. Mais bon, voilà. Après, c'est clair que là, les favoris du Tour, en tout cas. Aujourd'hui, ils ont passé une journée assez tranquille. C'est clair qu'ils ont souffert parce que quand on est un peu déconnecté de la course, c'est pas évident. Ben, on se rafraîchit, on parle un peu, on est à 10 minutes et voilà. Mais voilà, ils vont se retaper. Mais devant, il y a la course qui se fait et tout le monde s'adapte un peu à cela, quoi.
Romain.
Oui, je voudrais revenir sur ce qu'a décidé l'UCI aujourd'hui, de manière un peu peut-être précipitée, sur le fait accompli, c'est-à-dire d'assouplir les règles de ravitaillement dans ce qu'on appelle les zones bidons, dans les ascensions qui étaient répertoriées aujourd'hui. C'est-à-dire que d'habitude, on peut attraper les garçons, vous me confirmez, un bidon par coureur. Là, on avait le droit aux musettes du côté des équipes, ce qui permet de mettre un peu plus de bidons à disposition des coureurs. Le problème, c'est que c'est très encadrés. Et ce soir, ce qu'on a entendu à l'arrivée, on a entendu, Machin l'a dit, c'est qu'à un moment, il va falloir ouvrir ça sur tout le reste du parcours, sur ce genre de situation extrême. Parce que le problème, là, ce qui s'est passé, c'est que c'est devenu presque dangereux, parce que tout le monde fait appel au même moment, et tout le monde redescend à la voiture. Enfin, je veux dire que c'est...
Dans une course de vélo, t'as pas 10 000 moments où tu peux aller à la voiture. Tu peux pas y aller toute la journée. Donc toutes les équipes, tous les coureurs vont y aller au même moment. L'UCI, tiens, je vais te remettre un carton. T'aimes bien les cartons au Pierre-Yves. Celui-là va être rouge et bien rouge. Parce que l'UCI s'occupe de la taille des chaussettes, de l'inclinaison des cocottes. Là, pourquoi t'ouvre pas le ravitaillement jusqu'à la fin, les bidons un peu où tu veux. Et ils ont pris la décision à Barcelone que les coureurs au chrono, donc t'as un casque plein, t'as une combinaison avec des manches longues, d'interdire les glaçons dans les chaussettes parce que ça modifie la morphologie du coureur et ça peut être plus aéro. Mais putain, on va où? Il fait 40 degrés, les glaçons ils fondent au bout de 5 minutes, la morphologie elle est revenue comme avant. Mais l'UCI, ils ont des vrais problèmes à gérer, hein. Apparemment c'est vraiment important.
Mais je te dis
ça me rend dingue, ils ont jamais mis le cul sur un vélo, je suis désolé, ça me rend fou.
Tu connais la raison, ils ont jamais fait de vélo.
Ah voilà,
D'ailleurs c'est ce que disait Matteo Trentin qui visiblement lui a souffert de la chaleur, le coéquipier de Julien Alaphilippe chez Tudor, qui dit mais ça fait plusieurs jours qu'on réclame ça. Et ils ont pris des amendes du AE pour des ravitaillements hors zone hier.
Prendre les francs suisses, c'est bon à l'UCI, t'inquiète pas, mais prendre des mesures pour aider les coureurs, ça prend un peu plus de temps.
C'est-à-dire que c'est ce qui est en train de monter dans les paddocks, on en a parlé encore tout à l'heure avec certaines personnes très proches des équipes. On a l'impression de plus en plus que les équipes sont les vaches à lait, qu'on crée des règles pour que les équipes ne le respectent pas ou peu, et pour prendre de l'oseille. C'est tout. Et c'est le leitmotiv de cette fédération internationale, et encore plus avec son président.
Je t'ai amené avec le tacle de Trentin chez nos confrères de Sporza à destination justement des autorités. Mais coupez donc la clim dans la bagnole, les mecs. Vous verrez ce que nous on endure.
Exactement. Mais il a raison. Et puis Trentin, c'est un homme d'expérience, hein, donc il en a eu passé des règlements, des changements de règlements et tout ça. Il a raison.
Richard, on a parlé de la chaleur.
Un exemple, regardez la Coupe du Monde qui se pratique dans des pays où il fait chaud. Qu'est-ce qu'ils ont mis en place des pauses fraîcheur? Bon, c'est sûr que
dans des stades où il y a la clim, hein. Stades où il y a la clim parfois.
Vous imaginez, ils ont 3-4 minutes, ils ont droit à pause fraîcheur, tout le monde est content, pause fraîcheur. Moi, je pense que sur le tour, qu'est-ce qui serait pas mal? Mais bon, il faut le mettre en place. Et moi, c'était quelque chose que je rêvais, je guettais. Hein. Moi, j'adorais, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mes chers Jérôme. Moi, j'adorais que dans l'école, au pied du col, quand ça roulait pas, quand même, quand je roulais à fond, qu'il y ait un type qui sort avec un tuyau d'arrosage et qui me mette un coup de jet dans la tête, qui m'arrose
aujourd'hui
de partout.
L'arrosage est interdit dans la plupart des régions. On n'a pas le droit d'arroser ses plantes. Si on commence à demander aux gens d'arroser les coureurs, ça va poser.
Tout à l'heure, on a vu les pompiers arroser la foule sur le bord des routes.
Arroser les coureurs, une brumée. Vous savez, il y a des sponsors sur le tour qui envoient de l'eau. Je crois que c'était le sponsor.
Oui, ça se faisait à une époque.
Mais en tout cas, dans ces vagues de chaleur comme ça, ça serait quand même agréable et très agréable, je peux vous dire, quand vous êtes dans un col, qu'à la mi-col, vous savez qu'il y a une douche qui vous attend, hein, vous passez dessous, et c'est... quel bienfait que ça peut faire. Mais franchement, hein, c'est une idée que je lance, mais en tout cas, moi, j'étais à la recherche des bidons ou des gens qui étaient là au bord de la route. Je prenais une bouteille de 1 litre que je me vidais sur moi carrément, et ça, voilà, je faisais ça et j'étais content, et après je repartais de plus belle.
Mais sans aller jusque là, tu as pris l'exemple des pauses fraîcheur dans le foot, ça revient à ouvrir le ravito n'importe quand, que les coureurs puissent prendre des bidons quand ils veulent jusqu'à la ligne d'arrivée, et c'est tout. C'est déjà une amélioration.
On a dérivé un peu, on a parlé de la chaleur, mais la question première était: est-ce que ça change la gestion? C'est-à-dire, est-ce que UAE finalement s'est dit: il fait très chaud, demain ça va être compliqué, après-demain ça va être compliqué, on laisse partir cet échappé? Est-ce que, Jérôme, tu penses que...
Ils nous ont écoutés hier, on en avait parlé hier. Hier, ils nous ont écoutés totalement, hein, qu'ils allaient dans le mur, hein, s'ils étaient comme ça, par le public et pour la gestion de la course. Donc ils ont eu totalement raison, et de s'économiser, ils se sont bien calés sur les favoris et ils vont rentrer en course... l'étape, on va dire, pour le Tourmalet, ils vont remettre un petit coup. Et ensuite, la dernière semaine. Donc, pour l'instant, tout va bien pour UAE. Ils gèrent très bien la situation, je pense, à mon sens.
Toi, Jérôme, tu penses que c'est pas lié du tout à ça? Ils auraient pu...
S'ils avaient eu peur de la chaleur, hier, ils auraient pas géré comme ça. ils seraient pas allés chercher le maillot, ils auraient pas écrasé la course, pas fait rouler tout le monde. Non, je pense qu'ils ont tactiquement bien fait de laisser partir ce maillot. Mais comme le dit Richard, s'il fait 40 degrés le jour du Tourmalet, de toute façon, Pogacar, il va en mettre partout. Donc c'est pas une question de chaleur pour eux, c'est une question de gestion de temps et de pas avoir à rouler demain et après-demain, même si, franchement, sur l'ensemble du Tour de France, les deux fois où il va aller au protocole et ils vont avoir à s'économiser ce temps-là, c'est pas ça qui va faire la différence.
Oui, mais si c'était ça le facteur X dans ce Tour de France, la chaleur.
Ah, alors, ça, c'est différent.
Évidemment qu'il a travaillé là-dessus, mais on rappelle que c'était quand même l'un des points faibles de Tadej Pogacar au début de sa carrière. Rappelez-vous ce qui s'était passé dans le Granon, ce qui s'était passé au lendemain du contre-la-montre de Combloux. Il a été victime à plusieurs reprises de difficultés en raison de la chaleur. Alors, depuis, il a travaillé, il training et compagnie, mais enfin, là, l'accumulation de journées comme ça, de canicule, on ne sait pas quand elle va s'arrêter, cette canicule. On nous parle de 10 jours de canicule quand même là, hein. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des étapes de montagne où il fera 40 degrés, notamment quand on sera en Auvergne, on ne monte pas très haut, donc la chaleur va rester importante. Bon, ce sera sans doute
pas... Bah, aujourd'hui, par exemple... Non,
mais ça peut être un facteur à ne pas négliger pour Pogacar. Hein.
Aujourd'hui, par exemple, dans l'une des montées, il faisait 42 degrés au pied et il faisait 36 en haut. Et comme il attaque au sommet, il va attaquer au frais. Au lieu d'attaquer à 80 bornes, il attaquera peut-être qu'à 40.
Ouais, peut-être.
Il va gérer. Mais ça, c'est une façon de gérer pour lui.
Ouais, non, je pense que vu comme Sinner a géré à Roland Garros.
Je te rejoins, Christophe.
Je veux dire, quand tu prends un coup de chaud sur la tête, après, je crois que
pour l'instant, il est euphorique. Laissons-les être.
Les horaires de la course qu'il faudra revoir si dans les années futures ça
tombe bien. Là, Prudhomme a dit pour l'instant,
c'est un autre débat.
Tu as les diffuseurs, les télés qui payent des.
Demain, l'étape. Donc, l'argent est ça au-dessus de la santé des coureurs.
C'est une autre question. On aura peut-être l'occasion d'y revenir si effectivement dans les jours prochains ça devient très compliqué. Ben moi j'ai chaud, messieurs, peut-être vous aussi. Donc on fait une petite pause fraîcheur et on se retrouve dans quelques instants.
RMC, 19h20, l'After Tour.
Pierre-Yves Leroux.
Tadej Pogacar n'a donc plus le maillot jaune, mais ça fait les affaires d'un garçon qui s'y attendait pas forcément, même s'il a été leader sur la Vuelta l'année dernière. Thorsten Trenne a donc réussi à piquer le yellow jersey sur les épaules de Tadej Pogacar. Et ce que je vous propose, c'est pas d'écouter Thorsten Trenne, mais d'écouter son manager général, un garçon que vous connaissez bien, Tour Uchov, manager de l'équipe UnoX, qui a rencontré Kevin Morand derrière la ligne, un manager qui était aux anges, évidemment, pour son coureur.
Qu'est-ce que ça vous fait de voir votre équipe UnoX en jaune sur ce Tour de France ?
Moi, je suis très fier parce que c'est toujours un rêve. Des fois, ce n'est même pas un objectif parce que c'est tellement dur à l'avoir. Mais c'est tellement beau, je suis tellement fier et content. Et ça montre aussi que les projets qu'on a, on fait marche par marche, année après année. Et ça montre aussi qu'on peut, si on fait le bon travail, de venir d'un petit pays. Avec, on est seulement deux nations, les Danois et les Norvégiens, et on a réussi à être une équipe comme ça. Ça me donne un peu fierté quand même.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de Thorsten là ? Qu'est-ce que ça représente pour lui de porter aussi ce maillot jaune ?
Je pense que lui, c'est le meilleur pour répondre à cette question, mais c'est clair, lui, c'est un guerrier, c'est quelqu'un qui travaille dur et qui mérite porter ce maillot.
Et ce maillot, ça montre les grandes ambitions d'UnoX aussi. Quelles sont-elles ?
Oui, bien sûr. Nous, on a nous, on va être ici au vélo longtemps. On a des propriétaires qui veulent rester dans le milieu du vélo. Et ça, c'est ce modèle, le début.
Les mois de juillet réussissent bien à la Norvège, là, on voit à la Coupe du Monde de foot et là, sur le Tour de France.
Là, ça va aller, là.
Merci beaucoup, okay. Jean.
Tour Uchov derrière la ligne avec Kevin Morand, notre reporter. C'est évidemment une joie incroyable pour ce garçon qui avait connu aussi ça, je le disais il y a quelques instants, Jérôme, sur la Vuelta.
Oui, alors deuxième maillot de leader sur un grand tour, c'est pas un coureur qui gagne beaucoup. Hein. Il a gagné une étape au Tour de Suisse en haut du Gotthard Pass, donc signe que c'est un bon grimpeur. Jérôme disait hier que ça pouvait être bien si Pogacar laissait un maillot à une équipe qui avait envie de le défendre et qui était capable de passer l'étape de jeudi, notamment avec le Tourmalet. Voilà, sur le papier, ça ressemble à l'équipe idéale. Et ce coureur, moi, alors, je l'aime beaucoup. beaucoup. C'est pas le plus connu du peloton professionnel, mais il a une histoire quand même assez incroyable parce qu'en 2022, après le Tour des Alpes, il a un contrôle antidopage de routine. Et là, dans les résultats, il voit un taux anormalement élevé de HCG, des hormones. Donc ça, c'est toujours pareil, il y a deux options, soit une maladie, soit un problème de dopage. Et voilà, le médecin de l'équipe, le connaissant bien, il ne croit pas du tout à l'option dopage, il va faire des examens et il se rend compte qu'il a un cancer des testicules. Donc, pas opération, mais pas de chimio, etc. Donc, il revient quand même de très très loin, ce coureur. Et je pense que ni lui, ni son équipe, au départ à Barcelone, imaginaient porter le maillot jaune, peut-être gagner une étape. Il l'avait fait l'année dernière avec Abrahamsen. Mais voilà, c'est une des belles histoires du Tour, comme le Tour ancré assez souvent.
Il passe pro à 25 ans.
Ouais, tard en plus. C'est pas l'espoir dans son pays qui domine. Il a jamais été champion même de Norvège junior ou cadet. Voilà, il y en a qu'on voit un peu arriver. Il a une progression lente et ça, c'est à souligner aussi. T'as raison, Romain, parce que ça va être de plus en plus rare, hein, ce type de profil. Nicolas Prodhomme chez Decathlon AG2R a aussi une maturité plus tardive. Mais maintenant, on voit les coureurs passent de junior à pro. On laisse pas forcément le temps à ces profils-là de se développer. Donc quand ils sont à l'avant, c'est bien de le souligner aussi.
On a failli rater le train, c'est ce que tu voulais nous dire.
Tout à fait.
Ça. Richard, on a vu son sourire, évidemment, sur le podium. C'est vrai que c'est toujours un plaisir incroyable. Tu dois, là aussi, toi, avoir des souvenirs de ses premiers podiums. Sur le Tour, c'est quand même incroyable.
Quand il était dans l'échappée, on a dû de lui dire qu'il allait être maillot jaune s'il passe la bosse, si ceci, si cela, et il a dû le sentir venir. Donc c'est sûr que et en plus,
oui, ça peut permettre de savourer, c'est ça.
Et voilà, il peut savourer jusqu'à encore 48 heures parce qu'après il y aura le tap du Tourmalet, mais bon, il a encore une bonne marge, donc
je suis pas inquiet pour lui, hein.
Ouais, non, je pense qu'il peut le garder. Allez, 8-10 jours, il peut peut-être le garder. Donc, en plus, il va se sublimer avec ce maillot. Hein. Donc, son équipe va monter d'un cran et tout va s'organiser autour de ce coureur-là pour qu'il tienne le plus loin possible. Et imaginez, ça peut être la surprise du Tour qu'il fasse dans les 5 premiers de ce Tour avec ce maillot sur les épaules. Hein. Donc,
ça serait la surprise du Tour, Tour Uchoft aussi, puisque c'est son manager. Donc effectivement, ça pourrait être, hein, parce qu'il est malin aussi, ce Tour Uchoft, et il sait bien gérer ses équipes, Romain.
Il termine 9e de la Vuelta, hein, régulier, ouais, en montagne.
Après avoir porté 4 fois, voilà, 4 jours le maillot.
Ouais. Mais moi, je suis très nul en pronostic, et ça s'est vérifié encore aujourd'hui, mais il va faire top 10 du Tour.
Ah oui.
Parce qu'il y a 14 coureurs, le 17e aujourd'hui était déjà à 10 minutes. Il y a des garçons qui ne s'imaginent pas que ce garçon-là, ils ne vont jamais repasser devant en classement général.
Hein. Bah, on se rappelle du Tour d'Italie, et oui. Eulalio.
Eh oui, bien sûr.
Voilà, un peu même principe.
C'est un profil de coureur qui est fait pour le général. C'est le lieutenant de Johannessen en montagne. C'est le seul Norvégien dans cette équipe qui grimpe. Hein. Donc il était prévu pour accompagner Johannessen le plus loin possible. Aujourd'hui, il va avoir le maillot jaune. Richard peut en témoigner, ça donne des ailes. Ce garçon-là a énormément de talent. L'année dernière, il fait 9 de la Vuelta. C'est un garçon qui va progresser encore puisqu'il est arrivé sur le tard. Et vu comment il est affûté, parce que sur le podium, c'est assez impressionnant, attention à ne pas le sous-estimer. Je pense qu'il y a certains gars ce soir qui se disent « Ouais, ça va aller, il va le porter. » Et puis non, il y en a, moi je pense, beaucoup, un certain nombre qui ne vont jamais repasser devant Thorsten Tren au classement général. Même s'il y a un contre-la-montre. Alors là, pour le coup, ce n'est pas sa spécialité.
Bon, ce qu'on espère, parce qu'on va basculer un peu sur nos Français, ce qu'on espère, c'est que Paul Sexas sera devant Thorsten Tren quand même au classement. Hein, peut-être, petite grimace, Jérôme.
Non, mais pour l'instant, il y en a un qui est devant avec 8 minutes ou 10 minutes, ouais, 17 minutes d'avance.
Il a 8 minutes 40 d'avance sur Paul Sexas.
Voilà, on va aller les chercher.
Il faut les combler, les 8 minutes
40. Et imaginez qu'ils annulent les étapes là, qui arrivent. Là. Ouais, ouais. 4, 5, 6 étapes.
La dernière semaine, annulez pas.
Eh ben voilà,
ce que je veux dire, Richard, c'est que tu connais très bien l'idée. Il vaut mieux les avoir d'avance que de retard. Hein.
Ah oui, c'est sûr.
Et parce que lui, maintenant, le jour où tu as un coup de moins bien...
Il va courir à l'économie. Hein. Là, il va courir au millimètre à l'économie pour essayer de moins sauter le possible. Et toute l'équipe va être autour de lui. Donc non, ça va être un compte à rebours. Mais bon, il va languir jusqu'à l'arrivée parce que quand on regarde le profil, c'est dans les 5 derniers jours que le Tour se joue et où il peut vraiment découpiller. Quoi. Donc ça va être
ça va être appréciable en tout cas pour son équipe et pour lui. Et bon, dommage, hein, on avait Romain Grégoire qui était dans l'échappée. Et je le, quand j'ai vu les coureurs de l'échappée, j'ai dit putain, c'est vraiment l'année, son année, parce que là il aurait pu faire un grand coup dans cette étape aujourd'hui. Et je crois que c'est la chaleur qu'il a déboussolé parce qu'il est passé à travers aujourd'hui, quoi.
Ouais, exactement. Christophe, tu voulais ajouter ?
Non, on se souvient des épopées de Thomas Voeckler. Hein. En 2019, il finit pas loin. Hein, à 3 jours de l'arrivée, il est encore en jaune, hein, rappelez-vous. Ouais, hein. Et ça l'avait survolté complètement, le fait d'avoir ce maillot jaune. On dit que le maillot jaune rend fou, mais il rend fort aussi. Hein.
Et là, bien sûr, ça va être intéressant de le voir, d'ailleurs, la gestion par Thorsten Train. On dit pas grand-chose sur Paul Sexas aujourd'hui, ça s'est bien passé. Il était dans le peloton au chaud, comme je disais tout à l'heure, comme tout le monde. En revanche, il y a un autre garçon qui lui était devant dans l'échappée, qui est peut-être pas passé très très loin, c'est Kevin Vauquelin. Tiens, juste avant d'écouter Christophe sur cette journée pour Kevin Vauquelin, votre note pour Kevin Vauquelin sur la journée du jour, Jérôme Coppel.
7, c'est sur combien ?
Sur 20. Sur 20, pardon.
7, je te trouve un peu dur. Non, 15 sur 20.
15 sur 20. Jérôme Pinault.
En temps normal, pour un Kevin Vauquelin normalement prêt, j'aurais dit 13 ou 12 ou 13, parce que c'est pas logique qu'il n'ait pas plus extra de ce groupe. Mais en sachant d'où il vient et avec le début de tour et la maladie, là on peut mettre facilement 15 ou 16. Ouais.
Richard, tu lui mettrais combien aujourd'hui à Kevin Vauquelin ?
Ouais, je suis assez déçu de ce qu'il devait faire, mais il était devant, il se fait sortir alors qu'il y en a dans le col, hein, je parle, hein, parce que Kevin c'est quand même quelqu'un qui a fait 7e du Tour de France, même s'il arrive un peu malade avant le tour, il était là, le tour c'est quand même sa course, et là dans le dernier col, bon, je mettrais 12 sur 20, mais je suis un peu déçu, hein, j'espère qu'il va reprendre pied, parce que là il n'est pas à son niveau, quoi.
On va écouter, tiens, avant de t'écouter, Christophe, nous parler de la journée de Kevin Vauquelin, on va écouter justement le Normand qui n'a pas réussi à aller battre la machine Lidl Trek aujourd'hui.
Je me suis battu, j'avais pas encore les meilleures sensations. C'était quand même meilleur. Là, comme j'ai dit, ça viendra. Ça vient step by step. Je suis mieux qu'il y a deux jours, je suis mieux qu'hier. Et voilà, on joue comme ça et je suis content c'est rare qu'une échappée aille au bout. Voilà, j'ai pu essayer de me battre pour la victoire. Même si j'ai vite vu en finale en essayant d'être malin, que ça allait être compliqué de pouvoir faire quelque chose. Ils avaient Etrek avec beaucoup de main-d'œuvre. Et voilà, surprendre un Mats Pedersen au sprint, j'ai déjà connu ça au circuit de la Sarthe, c'est pas possible.
C'est vrai qu'il a essayé d'être malin, notamment dans ce dernier virage. Tiens, Christophe, tu lui mettrais quelle note, toi ?
Moi, je lui mets un bon 14.
Explique-nous pourquoi.
Parce que un vrai Vauquelin avec toutes ses capacités, ça aurait été en dessous de la moyenne, parce que là, il est battu. Mais là, franchement, il faut quand même rappeler son parcours cette saison. Moi, je trouve que cette 6e place obtenue aujourd'hui par Kevin, elle est presque miraculeuse au bout de tous les pépins qu'il a endurés depuis quelques semaines, et même depuis le début de la saison. On rappelle que le coureur normand, qui a été l'un des héros français des deux derniers Tours de France, avait dû à l'intersaison quitter le cocon douillet d'Arkéa, où il évoluait depuis le début de sa carrière. Vauquelin, très demandé, a alors opté pour la formation britannique Netcompany Ineos, où il a obtenu sur le papier le statut de co-leader, partagé avec l'écossais Hanley. Enfin, partagé. Ah vraiment, hein, on a pu s'en rendre compte lors de Paris-Nice en mars dernier, où Vauquelin, pris dans une bordure, n'avait pas été attendu par ses équipiers qui avaient décidé de jouer la carte de l'écossais, ce qui avait agacé particulièrement le Normand. En juin dernier, rebelote dans le Tour Auvergne-Rhône-Alpes lors du chrono par équipe, où la CDS lui demande d'attendre Hanley, qui lui a été victime d'un saut de chaîne. Mais tout ça n'est rien, finalement, comparé aux autres mésaventures vécues par Kevin, le malchanceux ces dernières semaines. Le virus, tout d'abord, qui s'abat sur lui, le contrat au forfait lors des championnats de France, et surtout cette crevaison samedi dernier dans le chrono par équipe, alors que son équipe l'avait désigné comme dernier relayeur de la formidable équipe britannique, un dernier relais qui aurait dû lui offrir le maillot jaune. C'était prévu, quasiment écrit, oui, mais ça fait beaucoup, vous en conviendrez, pour un seul homme qui, après ce dernier coup dur, semblait à la fois diminué physiquement et surtout moralement. Pourtant aujourd'hui, Morin Lamberne et Jean Bocoton, il a décidé de se lancer à l'attaque. Il est parvenu à intégrer le groupe d'échappés et a même réussi à basculer avec les derniers rescapés de cette échappée au passage du col de Montségur. mais à 1 contre 3 incroyables coursiers de la Lidl Trek, la mission était impossible. Il a bien tenté dans le dernier virage d'anticiper le sprint de Pedersen, mais on ne piège pas comme ça un coureur de la classe du Danois. Kevin termine donc 6e, c'est pas ce qu'il espérait, mais au baromètre du moral, le voici sorti de la tempête sous un crâne. Le Tour du Normand s'achèvera sans doute bien mieux qu'il n'a débuté.
C'est ce qu'on lui souhaite, évidemment. Il le disait, j'avais pas encore les meilleures sensations. Richard, toi qui connais bien ce maillot à poids de meilleur grimpeur, est-ce que ça peut être finalement un objectif désormais pour lui? Et dans cette bataille, qui tu vois plutôt bien positionné actuellement? On rappelle qu'Alex Baudin, l'autre Français, l'a toujours sur les épaules pour le moment, mais il n'y a pas eu beaucoup de points à distribuer.
Ouais, je pense que le maillot à poids, on va commencer à regarder à partir du Tourmalet qui commence à s'inquiéter. C'est-à-dire que les coureurs partent dans les échappées, aller marquer les points du Tourmalet qui sont importants, hors catégorie. Et c'est surtout la dernière semaine que le maillot va se jouer. Moi, j'aurais été sur ce tour-là. Je me serais testé un peu sur quelques jours, mais les quatre derniers jours, là, je peux vous dire que j'aurais envoyé les watts pour aller chercher ce maillot à poids. Qui je vois, ben Alex Godin, il commence bien ce tour, il se jauge. Il faudrait pas qu'il aille se vider les jambes dans les troisième catégorie, quatrième catégorie pour marquer des petits points. Il va l'avoir quelques jours. Il faut qu'il prenne conscience. Je pense que le Tourmalet peut faire quelque chose, mais il faut qu'il rentre vraiment en action la dernière semaine du tour. Qui je vois pour le maillot à poids français, c'est Martinez.
Ouais. Lui, c'est-à-dire il s'économise pour l'instant, il est malin.
Voilà, et il le sait. Il a goûté au maillot à poids l'année passée et il a vu que le maillot à poids, il fallait avoir la caisse jusqu'à la fin, ce qu'il n'avait pas l'année passée. Cette année, on a l'impression qu'il a pris un palier et qu'il est malin et que s'il veut le maillot à poids, et ben il va s'y occuper, je pense, la dernière semaine.
Dans cette dernière partie d'After Tour, vous savez que la place est donnée aux auditeurs et nous avons avec nous Freddy. Bonsoir Freddy.
Bonsoir la team RMC.
Eh bien, écoute, les consultants sont à ta disposition. Richard Vieng, Jérôme Pinault et Jérôme Coppel, tu peux y aller pour ta ou tes questions.
Ben moi, c'est surtout la canicule qui fait peur. Hein, la canicule à venir, là, ce qui attend les coureurs dans les prochains jours en montant jusqu'à Bordeaux. Là, ils annoncent des températures jusqu'à 40-42. Donc, je me demande vraiment si les étapes vont pouvoir se faire, être maintenues. Là, on voit Pogacar à l'arrivée qui dit qu'aujourd'hui, déjà, il a eu mal à la tête. Voilà, on se demande un peu ce qui peut être pris comme décision pour maintenir ou pas les étapes, parce que moi ça me fait réellement peur là. Il annonce très 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 chaud et pour la santé des coureurs, je me pose des questions là. Savoir Jérôme un petit Pinault. Peu ce qui peut être pris. Voilà.
Est-ce que finalement, est-ce qu'une annulation d'étape, parce qu'on
du tour
tout à l'heure. Non, pas du tour, mais
peut-être reprendre quand les températures sont redescendues au-dessous de 34.
Est-ce qu'une annulation d'étape pour
Tour de France en janvier
serait une ineptie?
L'annulation d'une étape. Pour moi, viendra par la dégradation de la route.
Après demain.
La dégradation de la route, parce que je l'ai vu aujourd'hui sur la route. D'ailleurs, j'ai bien pu inspecter la route. C'est que dans la montée du col de Montségur, la route était impraticable. On n'aurait pas pu passer dans l'autre sens. C'était trop dangereux pour les coureurs. Peut-être qu'à ce moment-là, il y aura des décisions de prise. Après, la chaleur, aujourd'hui, on l'a encaissée. Il y a une très belle étape. Ça n'a pas empêché les coureurs d'attaquer au kilomètre zéro. C'est un très beau vainqueur. Il est danois. Le maillot jaune est norvégien. Il reste 4 jours, 5 jours avec 40 degrés. Mais ça va 42 aujourd'hui. C'est
il fait 34 40. Demain à Pau. Hein. 34 demain à Pau à l'arrivée. 28 le matin.
Voilà, donc c'est régulier.
42 à Bordeaux vendredi.
Et puis après, on sera dans les Pyrénées. Il fait chaud, mais arrivé en haut. Aujourd'hui, au sommet des cols, il faisait 35-36. C'est pas si chaud. Donc si on annule le tour parce qu'il fait 36, faut le faire au mois de mars. Après, il y a aussi les récupérations. Aujourd'hui, il y a des outils pour mieux récupérer. Donc, moi, j'ai plus peur par la dégradation des routes. On sait qu'il n'y a plus d'argent dans les pouvoirs publics, notamment dans les départements qui gèrent leurs routes, et que le Tour de France utilise beaucoup le réseau départemental. Là, par contre, là, on peut s'inquiéter. On a déjà vu aujourd'hui du lait de chaud sur la route pour essayer de ne pas que l'enrobé, le bitume. Goudron, le bitume ne se désintègre, reste constant. Bon, nous, on a pris plein la tronche, donc a priori, la solution ne marche pas.
Mais tu avais une tête de mineur à l'arrivée.
Bien sûr, mais tous les motards, tous les gens qui étaient en moto et les coureurs, je pense qu'ils ont dû en prendre aussi plein la tronche. Ça vient de là. mais par la chaleur, non, absolument pas.
Richard, quand Tadej Pogacar évoque des maux de tête liés sans doute à la chaleur, ça c'est quelque chose qui t'inquiète. Tu te dis, ce sont des éléments supplémentaires.
Je pense qu'il n'est pas le seul. Hein. Comme Pogacar dit quelque chose, de suite, il y a une résonance. Mais je pense qu'il y a plusieurs coureurs qui vont rentrer à l'hôtel avec des mal de tête, et mal de tête, déshydratation, c'est la chaleur, et c'est le casque pas ventilé, parce que il faut que maintenant les constructeurs mettent des casques ventilés.
Non, mais ça, ils ont, Richard. Hein.
Ouais.
Donc, ça, ils ont les casques de chrono, bien sûr. Ensuite, ils ont les casques aéro pour les étapes pas trop dures, et les casques de montagne vraiment ventilés. C'est le coureur qui fait le choix. D'ailleurs, c'est quelque chose qui m'a surpris avec Mats Pedersen, ou certains qui avaient des casques plutôt aéro aujourd'hui. Mais après, c'est leur choix à eux, quoi. Toi, les constructeurs, ils mettent quand même tout en place pour donner différentes options aux coureurs.
Je pense que celui qui va sortir un casque avec la climatisation sur le casque avec des ventilos.
Aujourd'hui, un casque aéré, hein, dans les grandes marques, il est plus léger et aussi ventilé qu'un casque à boudin que tu as connu, Richard, de l'époque. Donc, c'est plus une question de casque.
Richard, c'était les lunettes sur le cuir chevelu qu'il avait. Il n'y avait pas de casque à l'époque.
Mais bon, j'ai connu aussi avec le casque. Hein, donc, ça, c'est les années 90, mais 2000, on avait le casque. Mais c'est clair, comme disait Jérôme, la sécurité du coureur vient par rapport à la route, si elle est praticable. Et un col ou une route, vous savez, quand il fait très chaud, ce qu'on expliquait, c'est que le goudron fond. C'est-à-dire que d'un coup, c'est le goudron devient comme une soupe. Et ça colle, et vous prenez un virage, et ben vous pouvez louper votre virage parce qu'il n'y a plus d'adhérence. Et c'est là que ça devient compliqué. Je pense que c'est à ce moment-là que les organisateurs ou vont prendre d'autres itinéraires parce que les routes ne sont pas praticables. Voilà, mais comme si à Bordeaux il fait très chaud maintenant ou dans 4 jours, on n'y est pas encore à Bordeaux. À mon avis, ça va être jour le jour, et voilà quoi.
Exactement. Merci beaucoup, Freddy, pour ta question.
Juste quelque chose, deux petites secondes, parce que je suis un très grand fan de Richard. Donc j'ai 42 ans. C'est Richard qui m'a fait aimer le Tour de France. Donc je suis très très content de pouvoir échanger avec lui à la radio. Pour info, j'ai le même tatouage que lui sur le mollet, donc un petit scorpion et autres. Donc voilà, si un jour j'ai même déménagé, j'habite au pied du Ventoux. Donc j'ai déménagé de 600 km. Enfin, voilà, c'est vraiment Richard qui m'a mis l'amour du vélo, et je suis très très content de pouvoir échanger un petit peu avec lui.
Merci de ton témoignage, et au plaisir un jour de se croiser au pied du Ventoux.
Au pied du Ventoux, faire un petit tour de manivelle avec toi, ça serait un plaisir.
On restera au pied. Je suis plus dans les montées.
Pour te dire encore deux petites secondes, j'ai fait le semi-marathon du Ventoux dimanche dernier. Donc on est parti de Bédouin jusqu'au sommet, course à pied, et dans chaque virage, bah voilà, c'est des images qui reviennent du Tour de France, c'est des images de Richard au sommet. J'ai levé le doigt un petit peu pour ça aussi, arrive au sommet, et voilà, c'est vraiment toujours des émotions énormes, et un grand grand plaisir de pouvoir échanger avec vous tous.
Merci de ton témoignage.
Freddy. Merci de nous avoir contacté pour cet after tour qui touche à sa fin, les dernières minutes. Pour l'étape de demain, vous le savez, ça, enfin, on va changer. Il y a les sprinteurs, ils en ont marre. Hein, ils aimeraient bien pouvoir s'imposer. Quoique Mats Pedersen, même quand il y a des montées, il arrive à s'imposer. Alors, en quelques secondes, eh bien, je voudrais avoir votre pronostic sur cette étape entre Lannemezan et Pau. On arrivera du côté de la place de Verdun. Qui va sortir des tranchées, messieurs?
Bonne question. Moi, je vais mettre...
Il y a un beau plateau. Hein.
Il y a un beau plateau. Ouais. On les cite rapidement. Oui, ouais,
bien sûr.
Bon, Jasper Philipsen, bien sûr. Matt Pedersen, Phil Bose, Guirmay, Tim Merlier,
Olaf Koy, hein, c'est un des points très importants chez Decathlon. On a dit il y a deux jours à venir, très important. Olaf Koy demain, Paul Sexas après-demain.
Voilà, pour mon favori, moi je vais mettre Philipsen demain.
Jérôme Pinot.
Bah, il m'a coupé l'herbe sur
le droit. Il a le droit de mettre le même.
Non, mais on va varier, puisque moi je continue à être très médiocre. Donc je vais mettre Tim Merlier.
Richard Vianck.
Moi, j'ai Philipsen. Je suis comme Jérôme. Donc comme on peut choisir les mêmes, ben voilà.
Ouais, là, il y a le droit de choisir les mêmes. Comme j'ai Christophe Cessieux et Romain Asselin à mes côtés, je leur demande également leur pronostic.
C'est toujours difficile avant la première étape de sprinter de savoir dans quelle forme ils sont. Christophe. Je vais mettre Olaf Koy.
Tiens, intéressant. Voilà, moi aussi, je pense que je mettrai Olaf Koy.
Je mets Olaf Coy aussi.
Ah, on est trois à mettre Olaf Coy. Jérôme Pinot, il croit pas du tout. Mais alors, ah,
malheureusement, il y a une difficulté qui est pas si loin de l'arrivée.
Ah, oui.
Et je pense que
passe pas un bon chemin Coy, ça
va être compliqué. Alors là, s'il passe pas le kilomètre à 8% à 25 kilos de l'arrivée, danger. Hein.
Eh bien, on verra ça demain. Merci à toute l'équipe de l'After Tour. Et on se retrouve donc pour cette étape qui est réservée normalement aux sprinteurs. À demain.
Bye bye.
RMC, l'After Tour.